Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario.
Bonjour.
On est revenu à la charge aujourd'hui du côté du gouvernement Legault avec des chiffres qui continuent, Mario, de s'accumuler, si on veut, dans le dossier des demandeurs d'asile ici au Québec. Hein, je rappelle les faits. On demandait déjà une facture de 470 millions de dollars pour 2021 et 2022 pour les demandeurs d'asile qui ont été accueillis au Québec. Essentiellement, c'est ce que ça coûterait, selon le calcul du gouvernement Legault, pour... à donner de l'éducation aux enfants des demandeurs d'asile qui viennent ici, des places en garderie, des services de dernier recours, bref, tous les services qu'on offre dans la société.
L'aide sociale qui est versée aussi, l'hébergement au début en hôtel, ensuite en appartement, c'est beaucoup de choses.
Oui, puis là, je le rappelle dans l'ordre, c'était 470 millions qui étaient réclamés à Ottawa. Ottawa a finalement envoyé 150 millions du côté de Québec, donc beaucoup moins que ce qui était demandé. Et on est revenu aujourd'hui à la charge du côté du gouvernement Legault en envoyant là une pléiade de ministres là, de différents domaines qui sont allés, encore une fois, réclamer de l'argent parce que la facture serait arrivée pour 2023 du côté du gouvernement Legault. Et attention, ça fesse 576,9 millions de dollars. C'est ce que ça aurait coûté seulement pour 2023, là, soit plus que les deux autres années précédentes combinées ensemble. Le total de la facture, au-dessus d'un milliard. Là. Puis on tire la sonnette d'alarme encore en disant, ben, en ce moment, c'est une crise humanitaire qu'on pourrait avoir sur les bras tellement il y a demandeurs d'asile qui arrivent ici. Puis c'était beaucoup de chiffres, Mario, là, qui ont été présentés
mais
aujourd'hui.
C'est des chiffres, sincèrement, moi, je vais le dire dans mes mots, moi, c'est des chiffres qui m'ont donné le vertige. Là.
Oui.
Parce que tu dis, au-delà, OK, il y a la facture, il y a l'argent, mais tu dis, mais là, OK, mais Montréal est en train de se transformer tellement vite, personne ne peut même s'en rendre compte là, de ce qui est en train de se passer. Là, et... Le ministre de l'Éducation, quand il se met, lui, à lancer ses chiffres, il dit « OK, mais c'est 1250 classes d'accueil. »
Oui.
Ce qui est l'équivalent de 52 écoles. C'est comme l'équivalent de 52 nouvelles écoles
primaires
de demandeurs d'asile. Auxquelles on ajoute, parce que là, il nous explique, le ministre de l'Éducation, il dit « Ouais, mais moi, ça arrête jamais, là. » Parce que là, on fait l'évaluation, il y en a plein d'autres qui sont rentrés. Des enfants... On a besoin d'ouvrir, pas pour septembre prochain, d'ici la fin de l'année scolaire, entre aujourd'hui, février, là, puis juin, 350 à 400 nouvelles classes. Pas nouveaux enfants, nouvelles classes qu'il faut ouvrir. Et là, tu te dis non, mais là, ça se peut pas. Ça veut dire qu'à toutes les deux lundi matin, on ouvre tout le temps des nouvelles classes, puis ça te prend 20, 30... Tu sais, on dit on manque d'enseignants. OK, mais à toutes les deux lundi matin, ça te prend 20 à 30 nouveaux profs. Là. Tout le temps. C'est impossible, sincèrement. Ouais. Aucun peuple qui peut accueillir autant, c'est impossible. Donc, ça dépasse la question de l'argent. Il faut vraiment que le gouvernement fédéral reprenne le contrôle sur les frontières, sur l'aéroport.
Oui, puis ça fait partie justement des demandes qui ont été formulées aujourd'hui par les différents ministres, là, de freiner l'afflux des demandeurs d'asile qui arrivent au Québec, de les répartir équitablement sur le territoire canadien, mais aussi là, de fermer, là, si on veut, la brèche des groupes criminels aussi qui pourraient s'infiltrer au Canada, quelque chose qui était surtout noté pas à l'aéroport cette fois-ci, mais particulièrement à la frontière. Puis là, t'as parlé des chiffres de l'école, Mario, justement, là, des classes qu'on doit ajouter. Puis, on se comprend, là, on parle dans le centre de service scolaire de Montréal en ce moment de rajouter des élèves par classe. Là. C'est quelque chose qui, du côté même du milieu de l'éducation, est impensable.
On n'a ni locaux, ni profs.
Oui. Puis là, faut créer des nouvelles classes. Puis là, on parle que du système d'éducation. Si on passe à l'aide de dernier recours, là, si on veut le bien-être social, le chèque qui arrive en dernier recours.
Au début, ils n'ont pas le droit de travailler. Tant qu'ils ne reçoivent pas un permis de travail, ils sont tous sur l'aide de dernier recours. Ils n'ont pas le droit de travailler au Canada.
Et là, on dit que dans la dernière année, sur les 24 000 nouveaux prestataires d'aide sociale, 23 000 des 24, ce sont des demandeurs d'asile qui sont arrivés ici. Puis on se comprend. On va aider ces gens-là. On veut pas qu'ils se ramassent en situation d'itinérance. Mais c'est parce qu'il y a un prix, Il y a un prix, il y a un coût à tout ça comme société. Puis je rappelle, sur le milliard maintenant de la facture qui est dépassée, 150 millions de dollars qui ont été donnés par Ottawa. Est-ce que ça va forcer Justin Trudeau à réagir plus fort, Marie?
Ben aujourd'hui, Justin Trudeau a réagi. C'était un petit peu... comme une réaction sympathique, là. Oui, on reconnaît la générosité du gouvernement du Québec à faire un bel accueil. Bravo, on le fait ensemble. Mais c'est comme, tu te dis, OK, est-ce qu'il nous niaise? Parce qu'en même temps, c'est comme, tu sais, il gratifie le gouvernement du Québec pour cet accueil généreux, mais il fait semblant de pas entendre l'urgence, de pas voir le problème, de pas voir les chiffres sur les écoles. Il fait comme si... Je sais pas, sincèrement. On sait pas trop ce que Justin Trudeau pense de ça. Est-ce qu'il est juste collé politiquement au fond de la poêle, là, tu sais, dans le sens que il se dit, garde, là, moi, là, j'ai été le gars qui a poussé ça, plus d'immigration, plus de demandeurs d'asile, là, ça me pète des mains, crise du logement, mais je peux pas, tu sais, politiquement, je peux pas faire demi-tour. Est-ce qu'il veut trouver une façon, là, son ministre de l'immigration semble vouloir, en tout cas, au niveau, par exemple, des étudiants étrangers, trouver des façons de fermer un peu certaines valves. Mais c'est très difficile de savoir c'est quoi la pensée profonde du gouvernement Trudeau à ce moment-ci. Qu'est-ce qu'ils veulent, faire? Puis, je reviens dans les écoles. Qu'est-ce qui était le cœur de la dernière négociation?
Récemment, là. Ben, on manquait de profs.
Ouais, puis la composition de la classe. Hein, les enseignants, là, ce qui est la frustration qu'ils ont gardée malgré les augmentations de salaire, c'est la composition de la classe. Or, la composition de la classe, là, tous les milliers d'élèves qui sont dans des classes d'accueil, ben là, le but, c'est qu'en septembre prochain, ils regagnent les groupes réguliers. Mais soyons sérieux, là. Est-ce qu'ils vont parler un français parfait? Est-ce qu'ils vont écrire? Tu sais, ceux qui parlaient pas français, mettons, il y a quelques semaines, quelques mois, ils vont s'être améliorés, ils vont le parler. Pour certains, ça va être un progrès énorme. On va dire, c'est incroyable. En quelques mois seulement, ils parlent correctement le français, avec un petit accent, et tout ça. Mais tu sais, il reste qu'ils vont avoir un français limité. Est-ce que c'est un français suffisant pour apprendre à la même vitesse que les autres en histoire, en géographie, dans d'autres matières? Est-ce que leur français écrit va être à la hauteur? Donc, dans la fameuse composition de la classe, excuse-moi, mais ils deviennent des élèves à problème de plus, là, des élèves avec des besoins particuliers, des élèves qui ont besoin de plus de temps du prof, qui ont besoin d'un suivi. Fait que t'as déjà des enseignants qui hurlent, à Montréal surtout, notre classe, ça se peut plus, notre composition de la classe, ça se peut plus. Mais ça, c'est des centaines et des centaines et des centaines de nouveaux élèves avec des besoins particuliers. Puis là, je mets même de côté ceux qui ont des problèmes sociaux, qui ont vécu des traumatismes, qui ont pu être dans un camp de réfugiés. Mais juste strictement au niveau linguistique, ils sont des enfants avec des besoins particuliers qui, par milliers, vont aller dans les classes. Fait que la composition de la classe, le problème n'est pas fini.
Oui. Problème pas fini, je pense que c'est la phrase à retenir de tout ça, Mario, puis la réponse du fédéral, ben une vraie réponse, là, au-delà de ce que M. Trudeau a pu répondre aujourd'hui, elle va se faire attendre pour l'instant.
Actualité.
Ben, continuons de parler d'aéroport, hein, et de fiasco au fédéral. On va parler de l'application ArriveCan, encore une fois, qui est pas au bout de ses déboires, là. Outre le fait, là, puis c'est une nouvelle qui est sortie également, là, qu'on va à nouveau examiner les contrats de la fameuse entreprise, ou du moins de l'entreprise précédente qui avait été fondée par les deux personnes derrière, là, justement, là, GC Strategies qui coordonnait l'application ArriveCan. Mais aujourd'hui, c'est une action collective qui est lancée contre le gouvernement fédéral en lien avec l'application. Qu'est-ce qu'on leur
reproche?
Mais
là, c'est plus la conception de l'application, là. C'est son utilisation erronée.
Oui, exactement, parce que on dit là qu'il y a eu, en tout et partout, selon les chiffres qui sont allégués là-dedans, 10 200 voyageurs qui ont été soumis à une quarantaine illégale qui revenaient avec ArriveCan. Parce que je rappelle, l'application, vous rentriez l'endroit d'où vous veniez, votre passeport, toutes sortes de données. Puis après ça, ben ça vous coordonnait, dans le fond, ça enregistrait votre arrivée au Canada. Mais, dans certains cas, ça vous demandait aussi de vous mettre en quarantaine pendant 14 jours. On s'en souvient, au plus fort de la pandémie. Et là, ben c'est au-dessus de 10 000 utilisateurs qui auraient reçu entre le 28 juin puis le 20 juillet 2022, ben un ordre d'aller se confiner quand il revenait du pays, alors que c'était pas du tout quelque chose qui était nécessaire.
C'était pas requis,
c'était pas nécessaire, c'était pas recommandé. Ces gens-là ont dû faire une quarantaine quand même. Et là, ben cette action collective-là veut ratisser encore plus large, veut aller chercher toutes les personnes en tout et partout qui auraient dû se soumettre à une quarantaine en revenant, une quarantaine qui est erronée entre 2020 et 2022. Donc, on a quand même là, toute une action collective. Le montant n'a pas été encore dévoilé de combien ça pourrait revenir, tout ça. Mais c'est une autre tuile quand même qui tombe sur une application qui était déjà dans l'eau chaude pas mal.
Oui, oui, absolument. Mais ça va être intéressant à suivre. Parce que quand même, le gouvernement était dans son droit de demander la quarantaine. Qui a fait l'erreur? Pourquoi on a demandé des quarantaines pour rien? Puis je suis pas certain du fait de l'élargir, là, des gens. Ceux qui ont vécu une quarantaine inutile, je comprends. L'élargissement, ce sera... On va voir ce que les juges vont autoriser. Parce que des fois, on parle des actions collectives avec des grandes ambitions. Donc, on va voir celle-là, ce qu'elle donne.
Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
Dans les affaires judiciaires, maintenant, il y a un Québécois de 82 ans qui était en vacances au Mexique, qui a reçu 2 balles au thorax, puis qui lutte maintenant entre la vie et la mort après avoir été placé dans un coma artificiel. C'est l'histoire de Yvon Langevin, qui est un snowbird, fait à peu près 30 ans, qui va à Acapulco, va prendre des vacances justement dans le sud, au Mexique, comme beaucoup de snowbirds. Et là, ben lui, ce serait, de ce qu'on comprend dans l'histoire puis des détails...
Ce serait fait une nouvelle amie.
Oui, une nouvelle amie, une petite copine, une fréquentation.
Lui a 82.
82 ans, celle-ci serait, puis là, on n'a pas l'âge exact, mais on parle 19 ou 20 ans, selon un ami de celui-ci, Alain Tremblay, qui a raconté, entre autres, là, certains détails à la presse. Et qui expliquait, ben oui, il s'est amouraché de cette jeune femme-là, 19-20 ans, se sont rencontrés, lui, son épouse, hein, monsieur Langevin, est décédé depuis un moment, il est veuf, et donc la rencontre développe une amourette, mais... problème, c'est qu'il semble que la jeune Mexicaine, elle, avait déjà un conjoint. Et là, ben, ce qu'on explique, c'est que ce serait lui, ou du moins lui et certains complices dans cette histoire-là, qui seraient allés à la porte de son condominium, justement, cogné. Et quand il a ouvert la porte, ben, il s'est pris 2 balles dans le thorax. Son animal de compagnie qui s'est fait abattre, lui aussi, dans ce dossier-là. Là, on essaye d'enlever les 2 balles. Il est dans le coma artificiel. Et là, ben, il y a une enquête qui est déclenchée, bien évidemment, autour de tout ça. Mais vraiment, drôle d'histoire, Mario, là, qui a des conséquences dramatiques.
Vraiment, absolument.
Tout savoir en 24 minutes.
Toujours dans les histoires de fusillade, on continue à prendre des détails de cette drôle d'histoire qui s'est passée à Saint-Malachie, Mario. Là, il y a
un film, là. Ouais. Un film policier, un film de gangster, un film, carrément.
Véritablement, alors...
Parce que c'était comme une prise d'otage en cours. Finalement, on se rend compte que c'est ça, là. Des gens sont arrivés chez d'autres comme pour un peu les séquestrer ou les menacer. Ou...
Exactement, puis tout ça, ça s'inscrit dans le grand contexte plus large
de la
dans
guerre,
le coin de Québec.
De la drogue, là.
De la guerre de la drogue.
Contrôle du territoire.
Qui se passe en ce moment avec le gang du caïd Dave Pic Turmel, là. Un homme qui mène une rébellion, là, selon les dévoilements de nos collègues du bureau d'enquête. Qui ont dévoilé justement que lui mène une rébellion contre les Hells Angels de la région de Québec et donc qui a aussi là, été à l'origine là, de ces vidéos qu'on a pu voir là, hier également de torture, ni plus ni moins, là, de séances de torture qui ont été diffusées, filmées et qui font froid dans le dos, franchement. Puis c'est un peu dans ce contexte-là, on se comprend.
Une vidéo de torture, il faut comprendre que les Hells Angels sont assis sur la chaise dans la position de la victime.
Oui, en se faisant couper une oreille, entre autres, dans une de ces vidéos-là.
C'est sûr que quand tu as connu la force des Hells, tu dis, OK, est-ce qu'on approche d'un moment où les Hells vont appeler la police puis demander qu'ils passent un peu plus? Faudrait que vous circuliez un peu plus dans le quartier, là.
Ben, dans ce cas-ci.
Pour être visible.
Dans ce cas-ci, je peux pas confirmer, bien évidemment, on sait pas si l'otage en question dans cette histoire-là de Sainte-Malachie, lui-même, là, est affilié aux Hells Angels, mais ce que je peux dire, c'est qu'il a dû appeler la police. Parce que là, on comprend que la personne qui a été tuée, c'est un des assaillants. Alors que l'otage lui-même a réussi à prendre la fuite, il a tué un des hommes qui
un
est en train de l'assailler.
Un de ses ravisseurs ou un de ses assaillants.
Voilà. En a blessé un autre. Le deuxième otage qui était sur place aurait été lui aussi blessé dans l'échauffourée. Et là, il se serait dirigé justement chez un voisin de l'endroit où il se trouvait pour être capable finalement d'appeler la police puis d'avoir une intervention autour de tout ça.
Ce qu'on pense, c'est que le voisin a pas voulu le laisser rentrer, là. Il a comme eu peur, mais il a appelé, c'est le voisin qui a appelé la police. Donc c'est comme ça que la police est arrivée dans... Parce que c'est pas le loyer. Lui, il a cogné le voisin en demandant de l'aide, mais le voisin n'a pas été rassuré par la scène.
On s'imagine, surtout s'il était pris en otage, on peut présumer
qu'il
n'était
pas
personne...
vraiment habillé, il devait être bizarre un peu. Est-ce que s'il avait tué quelqu'un, est-ce qu'il y avait des traces de ça sur lui?
Ouais,
on sait pas trop, là.
On a peu de détails pour l'instant, mais c'est chaque détail qui sort dans cette histoire-là, on amène un peu plus, là, vraiment, ce qui ressemble à un film de gangster. Mario, t'avais bien raison, dans ta référence là-dessus. Donc, on dit même du côté des gens dans le quartier qui ont été interrogés par la police puis par le journal, qu'il y avait beaucoup de voitures luxueuses qui circulaient depuis un moment là, dans le secteur, depuis à peu près un mois. Ça pourrait être lié à tout ça. Bref, on risque d'avoir plus de détails un peu, mais les derniers jours, ça brasse là, dans le crime organisé au Québec, Mario.
Tout savoir en 24 minutes.
Une autre décision qui est extrêmement attendue au moment où on enregistre, Mario, elle n'est pas tombée directement, mais on attend le verdict dans le procès de Marc-André Grenon, qui, je le rappelle, là, est accusé d'avoir tué Guylaine Potvin en juillet 2000, un crime qu'il a déjà admis depuis, là. Donc, il y a eu aveu de culpabilité de sa part, ce qui fait en sorte qu'on se retrouve avec deux verdicts possibles. Premier degré, donc meurtre prémédité, et meurtre au deuxième degré.
L'acquittement est sorti des possibilités. À partir du moment où lui admet être le responsable de du décès, l'acquittement vient de tomber là, comme possibilité. C'est vraiment... Est-ce qu'il avait prémédité? Il a commis le geste, là, c'est lui. Il avoue être responsable de la mort de Guylaine Potvin. L'avait-il prémédité ou non?
Ouais, pis c'est la question qui se retrouve derrière tout ça, puis le jury, Mario, n'aura pas délibéré très longtemps. Hein, sont entrés en délibération à 14h aujourd'hui, et au moment où on enregistre, on attend la décision qui devrait tomber d'une minute à l'autre, soit vers 17h, et qui devrait là, se confirmer très bientôt, donc ça va être...
Je sais qu'il faut pas le dire publiquement, mais moi, un verdict rapide... avec ce que j'ai vu. J'ai mon intuition, mettons, sur ce que ça veut dire.
Voilà. Puis, faut comprendre aussi que du côté du jury, on a été séquestrés avec plusieurs détails aussi qui ont pas été révélés ou dévoilés pour pas corrompre le jury. Entre autres, Mario, quelque chose qu'on apprend maintenant, il est accusé d'une autre tentative de meurtre. À ce moment-ci, Marc-André Grenon, cette fois-ci, c'est en juillet 2000. Donc, on se rappelle, le crime contre Mme Potvin, c'est en avril que ça a été commis. Donc, quelques mois plus tard, c'est une jeune femme de Québec qui a été agressée sexuellement, qui a vécu une attaque, mais elle a survécu à tout ça dans un contexte qui, déjà, là, à l'époque, avait été vu comme très similaire, si on veut, à ce qui est arrivé à Guylaine Potvin.
Mais on connaissait cette histoire-là, sauf que dans le procès, ils peuvent pas mêler deux affaires. Là.
Voilà, mais on ne fait pas dire qu'il était justement accusé aussi dans ce dossier-là. Donc maintenant, là, c'est chose faite. Et là, on attend d'une minute à l'autre un verdict là, qui pourrait être rendu. Restez des nôtres, très clairement, qu'on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard.
Économie.
En ce moment, on se pose des questions sur la longévité ou même plutôt... la survie du panier bleu, Mario, le panier bleu qui a été créé.
Moi, je m'en pose pas.
Non? C'est fini?
C'est fini.
Oh. Il reste repose en paix, panier bleu.
Ce matin, à LCN, j'ai posé la question à Pierre Fitzgibbon qui m'a dit ouais, le gouvernement a fait ce qu'il avait à faire là-dedans. Il y avait des besoins pendant la pandémie. On prend une décision dans les prochains jours. Tu dis ouais, je pense qu'on sait quelle décision.
Ouais, parce que le panier bleu, c'était déjà quelque chose qui était sur le respirateur artificiel depuis un bon moment. Déjà ici, à l'émission, Mario, hier, on recevait la dame qui préside là, Produits du Québec, puis qui nous expliquait justement à quel point là, ils sont fiers d'avoir une marque sur Amazon,
ils
des partenariats.
Ils ont créé une section dans Amazon. Leur logo va dorénavant être disponible sur Amazon pour identifier les produits du Québec.
Ça venait un peu si on veut jouer sur le terreau du panier.
Il y a deux façons de voir ça, tu sais. Tu peux dire ça vient démontrer hors de tout doute que le panier bleu est inutile, que le gouvernement doit s'en retirer. Ou tu pourrais aussi dire, ben ça vient donner au ministre Fitzgibbon une espèce de porte de sortie pour dire, ben là, regarde, avec cette belle réussite de Les Produits du Québec qui a fait un deal avec Amazon, le panier bleu n'est plus, puis tu sais, trouver une porte de sortie, le panier bleu n'est plus nécessaire, puis on sort par la porte d'à côté, puis on oublie tout ça. On aura perdu quelques millions là-dedans, c'est bien évident.
Ouais, 16, pour être exact.
Ouais, mais... c'est comme si ça nous rappelle, tu sais, dans la pandémie, on dirait, tu sais, ah, l'achat local, c'est important, puis il y avait une espèce de côté, on va s'entraider, tout va être possible. Mais moi, je me souviens, il y avait beaucoup de sceptiques, on disait le panier bleu, OK, c'est parce que là, faut battre Amazon, tu sais,
il oui, reste puis, que... s'il y a bien quelque chose qui est difficile à battre.
Ben, de livraison rapide, puis là, au début, tu pouvais pas payer sur le site, ça livrait pas, puis là,
ouais, parce que maintenant, c'est chose faite, là. On peut quand même, là, organiser
moi,
un achat, le recevoir.
Moi, je l'ai utilisé une fois.
Et puis?
Ben dans le temps des fêtes, là, ben, je cherchais un produit, je l'ai cherché via Google. Moi, je me suis aperçu qu'il était disponible par le panier bleu. Puis moi, je suis quand même, c'est notre métier, nous, on fait de l'information. J'ai dit, ben, tabarouette.
Je vais l'essayer.
Ben oui, le panier bleu, je n'ai parlé, je l'ai jamais essayé. J'ai toujours bien savoir, ça marche-tu pas. Puis c'est drôle parce que j'ai commandé du thé. Mais j'en ai commandé direct chez un marchand québécois qui était pas dans le panier bleu. Là. Direct, j'ai commandé à deux places le même jour. Puis celui que j'ai commandé direct est arrivé genre en 48 heures, puis celui du palmier bleu est arrivé en une semaine. Mais c'est pas grave, là, du thé, c'est pas comme... tu sais, j'étais pas en attente d'une transfusion sanguine.
On se comprend.
C'était correct. Mais bon, c'est peut-être un hasard aussi, mais ça a été plus lent avec le panier bleu que celui, le commerçant québécois qui faisait affaire direct. Là.
Pour l'instant, en tout cas, on a droit à un silence de mort du côté des gens qui dirigent le panier bleu. C'est une petite entreprise, il y a 25 employés du côté du panier bleu, puis on répond pas aux questions pour l'instant. Donc, c'est un peu... Est-ce que c'est le silence, justement, comme tu le dis, qui annonce ben, le début des funérailles du panier bleu?
Je pense que c'est fini. Alors, c'est-à-dire que c'est un conseil d'administration indépendant, mais je pense que la partie support gouvernemental, c'est fini. Donc, à mon avis, ça ne va pas vivre sans support gouvernemental. Là.
Le monde.
Malgré toutes les pressions internationales qui pesaient aujourd'hui sur les États-Unis, il y a eu un vote auquel les Américains ont apposé leur veto au Conseil de sécurité de l'ONU. Là, alors qu'on demandait, il y avait une résolution pour demander un cessez-le-feu immédiat à Gaza dans un contexte où, on se comprend, là, il y a plusieurs centaines de milliers, au-dessus d'un million de personnes de déplacés palestiniens qui sont en ce moment à Rafah, là, une municipalité dans le sud de l'enclave de Gaza qui est en ce moment là, prise d'assaut, je vais le dire de ce mot-là, par des toutes sortes de gens qui sont déplacés par les bombardements, les combats, qui s'entassent sur place et on a menacé du côté d'Israël dans les prochains jours de faire une offensive terrestre sur cet endroit-là, ce qui est décrié bien évidemment comme un crime humanitaire grave et qui pourrait entraîner toutes sortes de répercussions, entre autres chez la population civile palestinienne. Et ça prenait justement bien évidemment le vote des États-Unis autour de tout ça. On a eu 13 voix pour, le Royaume-Uni s'est abstenu et le veto américain, le troisième depuis le début du conflit, est tombé.
Ouais. Je sais pas qu'est-ce que fait Joe Biden parce que il y a quelques mois avant les fêtes, il levait le ton quand même avec Netanyahou. C'est-à-dire qu'il l'appuyait comme là. Là. Il utilise son veto pour lui donner l'espèce d'appui nécessaire. Puis il se retournait, puis j'avais l'impression qu'il prenait le téléphone puis qu'il disait, là, regarde, là, je t'ai sauvé les fesses, là, mais
arrête.
Ça peut plus, oui, ça peut plus continuer. Est-ce qu'il refait? Là, je pense qu'aujourd'hui, c'est comme c'est le veto. Pour les Américains, c'est le plus gros, le plus malaisant, si tu me passes l'expression. Alors, je m'attends à ce que de l'autre côté, Joe Biden dise à Netanyahou, dise à Israël, là, ça prend une porte de sortie à ce conflit-là, ça prend une fin à ce conflit-là, ça peut pas continuer, vous pouvez pas mener à terme là, vos actions qui sont en place.
Ouais. Oui, mais je voulais dire quand même qu'ils font circuler hein, un autre texte, un texte